Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour à tous et merci de nous rejoindre dans le studio de Radio Foot International en cette fin d'après-midi où nous allons vous parler évidemment de football sur RFI, c'est l'heure. Et justement, nous commencerons par le génie, le Sommer. L'attaquante des Bleus et des Lyonnaises vient de dépasser ses aînés pour devenir la meilleure buteuse de l'histoire de l'équipe de France en dépassant Marinette Pichon. Génie le Sommer meilleur que Thierry Henry? Vraiment? Faut-il comparer d'ailleurs les deux numéros 9 des Bleus, femmes et hommes? Nous en parlerons dans Radio Foot tout à l'heure. Retour à la case départ pour Gareth Bale. Le Gallois a finalement quitté la Casablanca pour retrouver Tottenham où José Mourinho veut l'aider. Mais pourquoi le Real Madrid prête-t-il cet attaquant si chèrement acquis? Quel bilan surtout dressé de ses 7 saisons madrilènes? Qui sera le meilleur joueur européen à l'issue de cette saison si étrange? Le citizen belge Kevin De Bruyne, le bavarois polonais Robert Lewandowski ou un autre bavarois allemand et champion du monde Manuel Neuer? Y a-t-il d'ailleurs du suspense? Peut-être pas, peut-être. Bonjour Xavier Barré.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Merci d'être là aujourd'hui avec Franck Simon, notre ami de France Football. Bonjour Franck.
Bonjour Annie, bonjour à tous. Je vois qu'il y a un carnet là. Il a travaillé, hein, bizarre.
Ah oui, mais...
Il lit bien ses sommaires avant l'émission et
contrairement du coup, il prépare bien l'émission.
Contrairement à certains. Bonjour Eric Ravet-Sandra Tana.
Bonjour à tous.
Le sommaire de Pierre Guérin, ne sais pas s'il l'a inspiré, mais on va vérifier tout de suite là parce que c'est l'heure de l'examen. En direct. Pierre Guérin et David Finzel m'ont aidé à préparer cette émission et Alice Ménard, notre camarade, est à la réalisation aujourd'hui. Triathlète. Elle a terminé 7e d'un triathlon.
Ouais, impressionnant.
Pourtant, elle n'a pas tellement le physique, hein, mais vraiment, en tout cas, elle se cache. Elle est pleine de muscles.
Ce prochain défi, ce sera d'animer un radio foot qui durera 24 heures.
On a déjà fait long avec Alice Ménard. Radio foot, c'est parti.
Frappé par Génie Le Sommer au premier poteau. Ah, il est passé devant tout le monde ce ballon et le voici, le 81e but de Génie Le Sommer en sélection. Avec la possibilité de s'offrir un doublé pour Génie Le Sommer et le contre-pied est parfait. Ça fait 2-0 pour l'équipe de France grâce à un nouveau doublé en bleu signé de l'attaquant lyonnaise.
Wonder Woman et Super Nana sous le maillot des Bleus, alors bleu avec un E, Génie Le Sommer vient enfin d'inscrire un doublé et donc de battre un record après 239 minutes de disette face au but puisque la dernière fois qu'elle avait marqué c'était le 8 octobre au Kazakhstan. Mais son doublé au cours de la large victoire de l'équipe de France sur la Macédoine du Nord hier, 7-0, lui a donc permis à cette joueuse numéro 9 de l'équipe de France et bien d'arriver à un total de 82 buts. Elle devance une autre icône du football féminin français qui l'a précédée chez les Bleus, c'est Marinette Pichon. Et Eugénie Le Sommer, d'ailleurs, ne l'a pas oublié hier soir après le match.
Fière de l'avoir fait. Et je sais qui j'ai battu et c'était Marinette. C'était une grande joueuse et voilà, ça représente quelque chose pour moi. Donc voilà, je suis contente aujourd'hui. Mais c'est pas fini. Ça a été long, ça fait longtemps qu'on m'en parle. Et voilà, aujourd'hui c'est fait, je suis contente et maintenant le plus important ça reste la victoire. On m'avait parlé de ce record, c'est enfin fait et bah du coup celui-là il est pour toi. J'ai devais un maillot donc ce sera pour elle.
Marinette Pichon avait marqué 81 buts, son record tenait depuis 2006. Voilà donc le record des Génies Le Sommer. Est-ce que Franck Simon, pour vous, elle entre dans la légende des Bleus?
Elle est déjà entrée dans la légende du football européen avec son parcours à l'Olympique Lyonnais. Puisqu'elle a remporté toutes les ligues des champions,
des championnes, oui. Il y en a 7, donc,
elle est à ce niveau-là. Après, il faut savoir que depuis quelques matchs, elle n'évolue pas en numéro 9, mais elle évolue au milieu de terrain, en relayeuse.
Ouais, Corinne Diacre l'a changé de poste.
Voilà, elle avait été redéployée à un autre poste, face à des adversaires qui étaient largement à la portée des Bleus. Et du coup, elle était plus à la récupération, à la distribution. Hier, elle en avait parlé la veille en conférence de presse, quand on l'avait interrogé, elle avait dit, de toute façon, j'ai ça dans un coin de ma tête depuis tellement longtemps, vous me le dites à chaque fois, il faut que je marque. Oui, ça va venir, je vais marquer, vous inquiétez pas. Mais il y avait un plan, vous voyez bien, elle a marqué le penalty, elle a transformé le penalty. Sur le coup franc, qui doit beaucoup d'abord à son talent et puis aussi à la stratégie, ça a marché. Le penalty, on sent bien que ça avait été à la demande aussi. Je pense que ses coéquipières lui ont laissé le frapper parce que il lui permet de doubler. En fait, Marinette, elle égalait le record de Marinette sur le 81e, et puis elle l'a dépassé.
Elle l'a dépassé.
Mais effectivement, c'est une joueuse, elle a 31 ans, c'est une joueuse très importante dans l'histoire contemporaine du football féminin en France, parce qu'elle incarne. Et puis, faut pas oublier autre chose, c'est qu'elle était hyper compète, elle est toujours, alors qu'elle s'est mariée il y a pas plus d'un mois, hein, en arrière. Donc elle s'en fout en fait, hein. Dès qu'elle est sur le terrain, ce qu'elle veut, elle, c'est jouer, gagner, marquer, parce que c'est ce qu'elle fait maintenant depuis l'âge de 14-15 ans. Ça fait plus de la moitié de sa vie, quoi.
Et oui, elle avait été blessée aussi, hein, ces derniers temps, et ça l'avait empêchée de participer à certains matchs. Xavier Barré, meilleure buteuse des Bleus, avec qui elle joue depuis donc 2009. Elle est aussi meilleure buteuse de son club, l'Olympique Lyonnais, 270 buts. Est-ce que ça en fait une joueuse à part dans ce club des joueuses? En même temps, on voit que les carrières sont très longues chez les filles.
Oui, c'est-à-dire qu'elle a battu le record de Marinette Pichon, qui était une sorte de pionnière, hein, il faut le rappeler. Et là, aujourd'hui, je pense que la performance de Jenny Le Sommer est d'autant plus remarquable que la concurrence s'est accrue. Aujourd'hui, vous avez des centres de formation pour jeunes filles, avec des jeunes femmes qui sortent avec énormément de qualité, beaucoup de talent. Et elle, depuis 11 ans, elle est en équipe de France et elle est à Lyon. Et elle est pratiquement titulaire à tous les coups. Et c'est cette constance qui est absolument exceptionnelle. Et moi, ce que je voudrais souligner, c'est que là, on aligne effectivement des records individuels. Mais si elle a justement cette constance, c'est aussi parce qu'elle a su en permanence s'adapter. Quand l'Olympique Lyonnais est allé chercher des avant-centres hyper réputés, des Américaines, ouais, ou la Norvégienne Ada Hegerberg, elle s'est décalée sur la gauche. Elle a continué à jouer, elle a continué à marquer. Et je pense que cet état d'esprit hyper collectif, il lui vient de son éducation. Il faut savoir qu'elle est issue d'une famille de 9 enfants. Elle est au milieu. Il faut faire sa place dans la tribu familiale. Surtout qu'elle, elle n'était pas l'aînée ni la dernière. Elle était au milieu, donc c'est les places presque les plus difficiles. D'une famille hyper sportive, poussée par ses parents, son père Thierry, sa mère, certains de ses frères et sœurs qui ont joué aussi au foot, ou d'autres qui ont fait de la gymnastique à un très haut niveau. Donc il y a vraiment cette passion pour le sport au niveau familial. Mais il y a ensuite cet état d'esprit hyper collectif du fait qu'elle soit issue d'une famille nombreuse. Et du coup, ça se ressent sur le terrain. Elle a jamais fait d'histoire comme d'autres pour dire « moi je veux jouer ici, moi je veux jouer ». Non, elle a toujours s'est contentée du rôle qu'on lui a donné. Et à l'arrivée, elle est récompensée de cette constance, de ce dévouement par ses statistiques individuelles.
Deux choses,
oui. Marinette Pichon, le précédent record, elle l'a établi en moins de matchs.
Exactement.
En équipe nationale, ça c'est une chose.
112 sélections,
voilà.
Pour ce qui était de Marinette Pichon. 172 pour
voilà. La deuxième chose, pour corroborer ce que disait Xavier, c'est que dans le football français féminin, on lance très très vite les joueuses en équipe première. Parce qu'il n'y a pas forcément d'équipe de moins de 20 ans. Voilà. Donc du coup, que ce soit Marinette, que ce soit Gaëtan Tinet, que ce soit...
C'est pour ça qu'elles ont autant de sélections.
C'est pour ça qu'elles ont autant de sélections. C'est aussi pour ça que
Jenny
Le Sommer...
Il y a moins de sélections avant d'arriver en...
Mais même en club. En club.
31 ans.
En club. Je crois qu'elle a commencé à 15 ans, à Saint-Brieuc, puisque d'origine bretonne.
Avant d'arriver à Lyon.
Voilà. Et elle a commencé à 15 ans, elle a commencé à aligner les matchs. Gaëtan Tinet, la même chose, à Mémy avec Marinette Pichon. Et ce sont des joueuses effectivement qui alignent comme ça des centaines de matchs en sélection et en club, parce que c'est aussi l'une des particularités aujourd'hui du football, de notre football féminin. On a la chance, c'est que très vite elles ont le talent, on les fait jouer même en D1.
Éric Rabessin-Vatana.
Pour les trois que tu as cités, Jenny, Marinette et Gaëtan, c'est trois joueuses à tempérament en fait. Donc c'est pas aussi surprenant de les voir tenir aussi longtemps, d'être encore là, plus pour Marinette, mais pour Gaëtan et pour Jenny, d'être encore là depuis longtemps. C'est vrai ce que tu disais,
faut
Xavier,
tenir.
C'est que elle a le tempérament. tempérament, quand tu la vois sur le terrain, sa façon de jouer déjà, c'est, elle se bat sur tous les ballons. Elle ne lâche jamais rien en fait. Et c'est pour ça qu'elle est encore là, et c'est pour ça qu'elle dure dans le football. On va pas réduire. Je suis pas sûr. Alors je lance un peu le débat par rapport à Thierry Henry, mais je suis pas sûr qu'on puisse comparer par rapport à Thierry Henry. Mais en tout cas, c'est une grosse performance qu'elle a fait, et elle mérite qu'on lui lance des lauriers, parce que franchement, c'est ouais. beau. Et en plus, ce qui est bien, parce que j'ai aimé encore à la fin de son interview. C'est pas fini, et en fait c'est ça, c'est elle, c'est-à-dire que c'est pas fini, elle a dit ouais, de toute façon c'est pas fini, et voilà, bien sûr, mais c'est ça qui est beau, c'est pour ça que j'aime son tempérament.
Après elle s'est mariée au mois d'août là, elle a 31 ans, elle a peut-être envie aussi de fonder une famille, surtout comme on le disait, elle est issue d'une famille elle-même nombreuse, donc probablement envie de perpétuer le modèle, mais c'est vrai que ce qu'elle a déjà réussi jusqu'à présent c'est exceptionnel, et comme je le disais, c'est Franck Simon comparé avec Gaëtan Tinet qui dans son registre a une carrière tout à fait remarquable. Parce que Gaëtan Tinet, elle était dans un club amateur. Un club amateur.
Bah, voilà. À Saint-Brieuc, Eugénie, elle n'était pas dans un club.
Oui, mais elle est venue à Lyon très vite. Elle est venue à Lyon très vite. Et donc, alors après, laquelle a le plus de mérite, c'est difficile de les comparer. Mais Gaëtan Tinet a fait presque toute sa carrière comme amateur, en fait, dans un club amateur à Juvisy. Bon, après, le club a été racheté repris par le Paris Football Club, qui en a fait sa section féminine. Donc maintenant, c'est plus professionnalisé, mais ça restait un monde amateur où elle a réussi à un extraordinaire niveau de performance. Eugénie Le Sommer, elle est rentrée dans la machine lyonnaise, donc avec un très grand professionnalisme, un très haut niveau d'exigence, des résultats incroyables. Franck rappelait le palmarès qu'elle a en club. Et surtout, elle a réussi à rester titulaire dans cette machine lyonnaise. C'est ça, moi, qui m'impressionne le plus. Parce que quand vous voyez les filles qui passent, il y a eu Megan Rapinoe, il y a eu Alex. Oui, un peu moins maintenant. Ouais. Mais Alex Morgan, Ada Egerberg, enfin, elle est en concurrence avec toutes les meilleures joueuses du monde dans son club et elle arrive à continuer à rester performante.
Et c'est elle qui a marqué le premier but lors de la dernière finale de Ligue des Championnes.
Ouais, contre Wolfsburg, c'est elle qui a ouvert Mais comme lors de sa première victoire où elle avait marqué aussi, je crois c'est en 2011 ou en 2014, mais elle avait aussi ouvert la marque lors d'une finale de Ligue des Championnes. C'est vrai que c'est ce qui la caractérise, cet aspect, cette compétitivité, cette envie. Elle ne lâche rien. J'ai eu des témoignages de joueuses adversaires de Eugénie Le Sommer disaient, y compris sur les touches et les coups francs, en fait, c'est dégueularde, hein. C'est-à-dire qu'elle se bat pour tout.
Ouais, c'est vrai.
C'est ça la mentalité, faut le savoir.
Tu lâches rien, tu veux rien laisser, tu veux tous les ballons,
Eric, là, je m'adresse à l'ancien joueur. Vous avez un peu abordé le sujet. On l'a fait sous une forme, évidemment, de provocation. Mais Thierry Henry, lui, avec les Bleus, c'est actuellement le meilleur buteur. Il a marqué 51 buts en 123 sélections. Elle en a donc marqué 82 en 172 sélections. Et elle devient la meilleure buteuse du côté des Bleus avec un E. Est-ce que on peut comparer?
On peut pas comparer parce que c'est toujours délicat de comparer le football masculin avec le football féminin. On peut pas comparer, c'est pas possible. C'est maintenant, on peut reconnaître autant de travail et d'abnégation. C'est un peu proportionnel. C'est-à-dire que l'engagement féminin est d'un côté, l'engagement masculin de l'autre. Thierry Henry a dû lutter dans un monde masculin un peu plus difficile certainement,
plus compétitif.
Plus expérimenté aussi parce que on part d'avant, tandis que le football féminin est arrivé après. Mais elle a quand même dû faire sa place, elle a quand même dû durer au fil des années, donc on peut pas dire que la performance est moins intéressante ou moins forte que l'autre, mais c'est dans deux domaines complètement différents, c'est pour ça que c'est difficile de comparer.
Franck Simon.
Oui, une autre chose qu'on n'a pas forcément précisé, mais qu'il est bon de rappeler, elle fait partie de la première génération des joueuses dont le métier est d'être footballeuse professionnelle.
Oui.
Là, maintenant, les jeunes attaquantes, Marie-Antoinette Katoto, qui a mis deux buts hier, la joueuse du Paris Saint-Germain, deux fois meilleure buteuse championnat en 2019-2020, elle est appelée à succéder peut-être au record à Eugénie Le Sommer. Mais elle n'a connu que le professionnalisme. Ce qui n'est pas le cas de Eugénie Le Sommer, qui a connu la transition. Gaëtan Tinet, enfin,
j'ai bien aimé ce que tu disais sur Gaëtan, Xavier, parce que c'est vrai, elle était pas entourée de ces joueuses que tu peux trouver à Lyon, donc c'est plus difficile d'évoluer dans un climat comme ça où tu dois être la leaduse. Je sais pas si ça se dit, mais voilà,
on peut inventer le mot,
bien sûr,
des mots féminins.
En tout cas, cas, ouais. Non, mais voilà, donc c'était plus dur aussi pour Gaëtan.
Xavier, pour en revenir à la comparaison qu'on veut ou qu'on peut faire avec les garçons, est-ce que chez les garçons, c'est plus dur? Est-ce qu'il y a plus de compétitivité, finalement, plus de concurrence? Alors, d'abord, entre buteurs, et puis peut-être aussi, parce que là, on
plus
voit...
Plus de talent, peut-être, de joueurs de talent qui sont capables de t'embêter pour arriver à ce niveau-là.
Peut-être, aussi, peut-être, encore que Thierry Henry, ça fait plusieurs années hein, que ça dure, mais voilà. Surtout avec aussi les adversaires, parce que malgré tout, alors je parle pas de la Coupe du Monde par exemple, où quand la France est tombée face aux États-Unis, c'était une équipe effectivement de très haut niveau, mais là on voit un 7-0 contre la Corée, la
50
Corée,
tirs quand même, juste pour les
Macédoine du Nord.
Tirs, c'est quand même énorme, je crois. Je sais pas si j'ai déjà vu ça,
classement voilà, FIFA. Faut pas s'arrêter à ça, c'est pas
non, mais bon, chez les hommes, quand l'Angleterre en passe 8 ou 10 à Saint-Marin,
voilà, j'allais dire ça, ou les îles Féroé, ou avant le Luxembourg, c'est vrai qu'il y avait aussi des.
On a un peu le même rapport de force fleuve. Entre les pays, puisqu'il y a effectivement des grandes fédérations en Europe aujourd'hui qui ont développé, et même en Amérique du Sud notamment, qui ont et aux États-Unis bien sûr, qui ont développé le football féminin. Maintenant, je pense que à l'intérieur de ce petit marché du football féminin, la concurrence est quand même moins rude que chez les hommes.
C'est ça. C'est
parce qu'on est encore au début. Est-ce que ce que disait Eric est tout à fait exact. Marinette Pichon était une des pionnières. Franck le rappelait. Jenny Le Sommer a commencé dans le monde amateur avant de devenir effectivement très vite professionnelle. Mais aujourd'hui, alors c'est vrai que la concurrence est beaucoup, c'est renforcé, c'est élevé avec le Paris Saint-Germain qui est devenu le challenger de Lyon, avec d'autres clubs français qui se sont aussi professionnalisés, enfin en tout cas qui ont renforcé les structures de leur section féminine, Bordeaux, Marseille, Saint-Etienne, Marseille, Guingamp, enfin voilà, il y a vraiment
des obligations aussi d'avoir une équipe féminine de plus haut niveau à chaque fois, donc c'est pour ça qu'on a plus de concurrence aussi.
Oui, mais ils font pas semblant, ils investissent, franchement, ils se donnent pas juste parce que c'est obligatoire. Il y a vraiment la volonté de développer le football féminin. Donc, la concurrence est plus rude maintenant, mais elle est quand même pas au niveau du football masculin.
Il y a une vraie incitation, effectivement, à développer le football féminin de la part de la FIFA et sur le continent africain, notamment.
La CAF, avec un vrai plan de développement, et c'est très important parce qu'aujourd'hui, on ne connaît quoi du football féminin d'Afrique que les sélections
qui viennent en Coupe du Monde,
voilà,
en général.
Les Nigérianes,
le Cameroun.
Oui, voilà. Alors, on les connaît, on en a même reçu une shoot à Jara, c'était super, mais en vérité, il y a tellement à faire pour les jeunes filles sur le continent africain. Il y a ce projet qui n'en sera plus un d'ici un an, qui est la création d'une première ligue des championnes. On va faire des tournois sous-régionaux, puis rassembler les vainqueurs dans les régions et faire une belle phase finale. C'est pour aussi inciter à se doter de championnats, en tout cas de compétitions, rassembler les forces. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup encore à faire en Afrique, et c'est aussi pour ça que vous voyez partir les Sud-Africaines, les meilleures, elles viennent où? Elles viennent en Scandinavie, viennent en Angleterre, en Première Ligue, en Allemagne. Les Camerounaises, elles sont partout dans le monde. Les avez aux États-Unis, il y en a quelques-unes en France, etc.
Dans l'Europe du Nord, oui.
Voilà, mais il n'y a pas encore les structures suffisantes en Afrique.
Pour ce qui est de ce match remporté hier par l'équipe de France, c'était dans le cadre des qualifications pour le prochain Euro féminin.
2022, repoussé d'un an.
Qui a été décalé d'un an.
Donc la compétition au niveau européen.
Le Real essaie d'étirer au maximum sur la largeur, ça passe d'un côté à l'autre.
Oui, pour l'instant, ils ont l'opportunité, Marcelo à gauche, un petit peu moins sur le...
Beaucoup de clins d'œil dans cette petite virgule concoctée par Alice Ménard et par Pierre Guérin et David Finzel, parce que on entend autant le Real Madrid et les buts d'anthologie marqués par le Gallois que par évidemment sa passion du golf.
La petite balle.
Et puis les supporters de Tottenham, parce que c'est la question qu'on va se poser. Est-il enfin heureux et vraiment heureux Gareth Bale, né pour jouer à Tottenham, comme chantaient donc ses supporters, en l'accueillant, les supporters des Spurs, lorsqu'il est revenu, alors au volant de sa grosse voiture, bien sûr, dans le nouveau White Hart Lane, c'est-à-dire le stade de Tottenham. Il y a 7 ans, il avait éclos sous les couleurs blanches des Spurs avant de rejoindre un autre club au maillot blanc, le Real Madrid. Et 7 saisons plus tard, il rentre à la maison. Apparemment, il se sent heureux.
Quand je suis parti, j'ai toujours su que j'aimerais revenir un jour à Tottenham. Il y a eu cette opportunité et j'ai senti que c'était le bon moment pour moi. Je suis très motivé pour aider l'équipe, j'ai hâte que cela commence. Tottenham, c'est un club à part pour moi. C'est ici que je me suis fait un nom. C'est un club formidable avec des supporters géniaux. C'est incroyable d'être de retour.
Incroyable d'être de retour. Revenir au point de départ, est-ce que c'est vraiment une bonne chose, Eric Descendratana?
C'est pas une si mauvaise chose quand on s'est un peu perdu en route. Retrouver les bases, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal pour Gareth Bale. On reconnaît quand même qu'il s'est un petit peu perdu au Real. Même
dans quel
si,
sens vous trouvez qu'il s'est perdu au
parce
Real
que je pense qu'il est
après,
resté trop
on
longtemps.
Fera le bilan de
voilà,
ses 7 ans.
Je pense qu'il est resté trop longtemps. C'est pas une question de talent, c'est pas une question de voilà, je pense qu'à un moment donné, ça matchait plus entre les deux et qu'il est resté trop longtemps, qu'il aurait dû repartir pour aller chercher un challenge ailleurs. On l'a peut-être embêté aussi pour partir, mais ça aurait été mieux pour tout le monde qu'il parte.
Il a perdu un an, là.
C'est vraiment, mais ce qui est marrant, c'est que, quand on comptait plus sur lui et qu'on l'a mis sur le terrain, c'était le meilleur. Non, mais c'est vrai. Oui. C'était incroyable. C'est-à-dire que, voilà, donc, il a relancé un petit peu la saison où le Real était pas trop bien et on l'a remis dessus, il était bien. Puis finalement, après, il est reparti aux oubliettes parce qu'il pouvait plus rester au Real. C'est fini. Il a lâché ce qu'il a montré comme tempérament, c'est-à-dire le fait de d'aller jouer au golf et tout ça. C'est la provocation parce que il était pas bien. Ça reste un joueur de foot au départ et je pense que voilà, il a accentué les choses pour vraiment pour montrer un peu qu'il n'était pas heureux et je suis sûr et certain qu'il fera pas la même chose à Tottenham.
Xavier Barré, alors évidemment la petite déclaration avec le beau maillot des Spurs sur les épaules, oui, je suis très heureux de revenir et tout. Est-ce que vraiment il a encore envie de jouer au foot à 31 ans il a lui aussi pardon.
Oui, 31 ans. Ouais,
mais... Et avec le palmarès qu'il a parce qu'on y viendra, mais c'est quand même 4 Ligues des Champions, qu'est-ce qu'il va gagner de plus ?
Mais justement, il arrive, il revient, vous dites, il revient à ses premiers amours, mais il revient pas dans le même Tottenham. Il revient dans un Tottenham déjà qui a changé de stade. Bon, actuellement, il n'y a pas de public, donc c'est un peu difficile de le mesurer, mais ils sont dans un stade extraordinaire, avec une équipe qui a atteint la finale de la Ligue des Champions il y a 2 ans, avec un entraîneur, José Mourinho, qu'on connaît, ouais, qui a des références. Donc, il revient pas du tout dans le même club. Aujourd'hui, Tottenham fait partie du Big Six. Quand il l'a quitté, Tottenham, c'était un club qui aspirait à venir titiller le Big Four, puisqu'à l'époque, on parlait encore de Big Four. Maintenant, il s'est installé dans le Big Six, même si la saison écoulée a été ratée.
Mais ils ont même fait une finale de Ligue des Champions, quand même.
Exactement.
Il y a pas assez longtemps.
Donc, c'est dans un club, il revient dans un club, j'allais dire, à sa dimension, puisque, voilà, lui, il a gagné des Ligues des Champions, il vient dans un club qui a joué une finale de Ligue des Champions et qui a aspiration de se mêler à ce très haut niveau pour longtemps, qui s'en est donné les moyens financiers, les moyens au niveau des structures. Donc, je pense que c'est un bon choix de sa part, parce que, après.
Il est aimé aussi, quand là, il revient,
bien
il est
sûr.
Aimé dans le club, donc il va sentir tout ce soutien.
Alors, pour l'instant, il jouera pas parce qu'il est blessé, ouais. Il ne jouera qu'après, vers la mi-octobre, apparemment, c'est prévu. Mais écoutons-le, son entraîneur, puisque vous parlez de José Mourinho, évidemment. Évidemment, l'homme à la tête de cette équipe, le facétieux José Mourinho, qui est ravi de compter Gareth Bale dans ses rangs, au moins officiellement et devant la presse.
Je pense qu'il sera en forme après la pause internationale d'octobre. Il est tellement heureux de jouer pour nous. Lorsqu'un joueur a cette motivation, vous pouvez raccourcir la période de récupération, de remise en forme et de préparation. Nous voulons l'aider. Quand il sera disponible pour s'entraîner avec l'équipe, nous serons plus qu'heureux de l'avoir et de l'aider à revenir à un niveau qui fait de lui l'un des meilleurs joueurs du monde.
Franck Simon, l'aider. Alors José Mourinho, il dit l'aider, mais on n'aide pas toujours dans ce milieu-là. On exige surtout beaucoup. Est-ce qu'il a sa place dans les rangs de Tottenham aussi? Parce que on a vu Tottenham un peu à la peine au premier match perdre sur sa pelouse face à Everton, vos chers Toffees. Ouais. Et puis tout d'un coup...
C'est que le début pour Everton.
Oui.
Je préfère vous dire.
On les surveille. On les surveille. Ne vous inquiétez pas. Parce que là-bas aussi, il y a un ex-joueur du Real Madrid et qui va peut-être lui aussi être heureux. Mais il y a quand même beaucoup de monde, ils ont gagné 5-0 et il y a du monde aussi dans cette équipe.
Je pense que comment il y a parfaitement sa place dès le moment où il sera physiquement physiquement prêt et mentalement prêt. De toute façon, on n'est pas sûr qu'il revienne tout de suite en titulaire. Ça peut être aussi de
c'est
façon.
C'est pas plus mal, je trouve.
Mais il a de par son talent, de par son aura, de ce qu'il peut représenter vis-à-vis des adversaires, il connaît très bien le championnat. Bon, on peut imaginer qu'il va vite retrouver du temps de jeu et surtout le plaisir d'être sur un terrain en club, ce qui n'était plus le cas depuis trop longtemps. C'est pour ça que je pense qu'il a vraiment perdu quelques saisons là. Il y avait des attitudes qui étaient incompatibles avec celles du métier de footballeur professionnel, limite insultante. Mais comme l'a dit Eric, c'était de la provocation. Et du coup, on l'a tous vu. Xavier, t'as dû le voir aussi quand il était avec l'équipe nationale
du Pays de Galles, bien sûr.
C'était fou, quoi.
C'était un autre joueur.
C'était un joueur exceptionnel. Et c'est celui qu'on va voir, je pense. En première ligue.
Et je pense que s'il revient aussi cette année dans un autre club, s'il a fini par lâcher le Real Madrid, alors il ne lâche pas complètement parce qu'en fait il est prêté pour une saison. Donc
il est prêté avec le même salaire.
Voilà, on verra comment ça se termine à la fin de la saison qui vient. Mais bon,
c'est aussi les fiançailles.
Il y a cet Euro 2021. Cet Euro 2021 avec le Pays de Galles. Il ne faut pas oublier que le dernier Euro en 2016 en France, le Pays de Galles va en demi-finale.
Ouais. C'est la surprise.
Voilà. Et donc lui, à son âge, vous l'avez rappelé Annie tout à l'heure, à 31 ans, c'est peut-être cet Euro, parce que la Coupe du Monde 2022, c'est difficile pour les Gallois de se qualifier, donc c'est peut-être sa dernière grande compétition avec son pays. Donc du coup, il a envie de la réussir, et donc pour être le plus performant possible, il faut qu'il joue. Et donc s'il va dans un club comme Tottenham, on remet les compteurs à zéro, il a de plus de chances d'être
ça
performant.
Ça fait peut-être partie du deal d'ailleurs.
Il va retrouver sa motivation, il va retrouver la flamme un peu qui lui manquait.
C'est pas le talent,
il n'y a aucune discussion là-dessus, c'est pas une question de talent, ça n'a jamais été une question de talent, c'est une question de motivation et de peut-être d'objectifs. Il retrouve des objectifs, c'est comme s'il repartait à neuf dans un climat qui est très favorable pour lui. Je pense que José Mourinho est très malin sur cette histoire.
Mais ce qu'il y a, c'est que
quand psychologiquement
même,
mieux.
Il y avait quelque chose, c'est qu'il est très fragile et on est un peu perplexe devant aussi ses absences répétées parce que il a eu 4 grosses blessures quand il était au Real Madrid, sans compter apparemment 16 gros problèmes musculaires sans doute et pas.
T'as des problèmes d'hygiène alors
Je pense. Ouais. Je pense que
plusieurs
ça
problèmes.
Doit être,
ouais. Mais il a été absent 320 jours des terrains. Alors pendant les saisons, c'est quand même beaucoup.
Ça fait
pratiquement un an réparti même sur cette saison. C'est ça aussi. Ou alors, est-ce que le mental influe sur le physique ?
Je pense que beaucoup. Sincèrement, de retrouver un climat favorable, de la preuve, puisque quand on parlait des sélections, il retourne en sélection et là il revient.
C'est vrai.
Et donc il retrouve ses qualités et en plus il est performant. Ça veut dire que bon, peut-être que ça durera pas parce que bon, sur une saison, c'est plus long, c'est peut-être difficile quand on a manqué pas mal de compétitions, mais ça va.
Eric Rabessandratana pourra sûrement le dire beaucoup mieux que moi, lui qui a été sur les terrains comme professionnel. Quand vous avez un petit bobo, si vous êtes motivé, si vous vous sentez bien dans l'équipe, vous allez vous sacrifier, vous allez jouer ce match parce que vous avez envie de le jouer, vous avez envie d'aider les copains. Si vous avez un petit bobo mais que vous êtes pas bien, vous dites oh coach, je suis blessé, je peux pas jouer. Donc là évidemment, s'il se retrouve dans s'il se retrouve dans un élément de confiance, il va jouer même s'il est un peu blessé. Là où au Real Madrid, il jouait plus.
Xavier, cette saison au Real Madrid, alors on se souvient tout à l'heure, on l'a entendu, mais ce but absolument incroyable, se retourner dans la finale face à Liverpool, il a marqué 128 buts en cette saison avec le Real, il en avait marqué la moitié à peu près, 64 en 6 ans.
C'est pas plus que Ronaldo.
En plus, il est champion d'Espagne une fois là avec Zidane. Ils ont eu 4 Ligues des Champions. Pourquoi y a-t-il eu ce problème avec le Real Madrid ? Son agent, qui parle beaucoup pour lui, vient encore de déclarer ces dernières heures. Je pense que les fans ont été irrespectueux et le club n'y a pas aidé. Il avait été sifflé, notamment, on s'en souvient, à Bernabéu.
Je crois que
Zidane
c'est
ne l'aimait
certitude.
Pas,
voilà,
ne le voulait que, pas, ne reconnaissait pas son talent.
C'est-à-dire que quand Zizou est arrivé, il a très vite compris qu'il fallait renouveler ce groupe qui était ensemble depuis très longtemps, avec des joueurs qui vieillissaient, qu'il fallait le régénérer, ce groupe. Et donc, il avait prévu de s'appuyer sur certains joueurs, on les connaît, Sergio Ramos et Varane, Casemiro, Kroos, qu'il avait fait prolonger, et puis Karim Benzema, Cristiano Ronaldo. Et donc, il y en avait d'autres qui étaient moins indispensables. Et Gareth Bale faisait partie de ceux-là. Donc, naturellement, il a préféré l'écarter. C'était d'autant plus facile que Gareth Bale, ne parlant pas bien espagnol, n'est pas tellement intégré dans le groupe. Donc c'était plus facile effectivement de le mettre de côté. Le seul problème, c'est qu'il avait un contrat en béton qui avait été prolongé par le président Florentino Pérez et que
il était arrivé pour 101 millions d'euros à l'époque. C'était le plus gros
transfert. Alors ça, c'était le transfert. D'ailleurs, on n'avait pas donné le montant exact pour pas vexer Cristiano Ronaldo.
Exactement.
mais surtout, ce contrat avait été prolongé par Florentino Pérez. Donc du coup, Gareth Bale, il avait son contrat, il voulait pas bouger.
Mais il l'a toujours d'ailleurs, parce que c'est jusqu'en 2022.
Voilà, exactement. Et c'est pour ça qu'il est prêté. Donc c'est plutôt une bonne chose de la part du Real et de Zidane d'avoir réussi à obtenir ce prêt, ce qui permet de libérer un peu les places devant à Madrid.
Eric ?
Ouais, je pense qu'il a... Il a besoin de reconnaissance. Alors ça peut être bizarre de dire ça, mais je crois qu'il a manqué de considération et en fait, du coup, il a lâché.
Ça l'a déstabilisé.
Voilà, ça l'a lâché.
Quand t'es vexé,
mais
il voulait
pas partir. J'allais dire, il est vexé. Il a été vexé de ne pas être considéré. Alors peut-être qu'il aurait voulu être considéré comme Cristiano Ronaldo. Je sais pas. Certainement, puisque entre la valeur du transfert, il s'est dit
Il avait des super stats quand même, il aurait pu
montrer encore plus que ça, parce qu'il a montré de vraiment belles choses. Je pense que c'est comme un couple, les deux sont fautifs et du coup c'est bien qu'il aille ailleurs.
Pour résumer, vous diriez quoi, son bilan est positif ou négatif au Real?
Je trouve que ses statistiques sont presque élogieuse, quoi. Il a des super stats par rapport à d'autres grands joueurs qui sont passés par le Real. Mais après, effectivement, après, quand ça lâche au niveau du mental, que vous êtes vexé, ça ternit
un bilan. Les supporters moins.
Et là, en plus, il y a une fracture, ce qu'a bien expliqué Xavier, il y a une fracture culturelle, quoi. Et à un moment donné, t'as une fracture culturelle, t'es plus dans la mentalité, t'es pas avec les joueurs. Ouais. Alors que Zizou, lui, c'est l'enfant de cette Maison Blanche, quoi. Donc, t'es plus.
T'as compris que t'en fais pas partie, et
du coup, t'as qu'une envie, c'était de partir, quoi.
Alors, ce Real Madrid, que va-t-il devenir cette saison sans Gareth Bale?
La meilleure Liga del Mundo.
Encarando la portería del Levante para cruzar ese balón y marcar el segundo para el Barça. Gol, 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 gol.
Un premier match frustrant pour les hommes de Zinedine Zidane, justement, eux qui ont repris la Liga au cours du week-end. Les champions d'Espagne en titre ont déjà cédé 2 points, on peut dire, dans ce championnat où tout compte tellement, en faisant match nul à San Sebastián face à la Real Sociedad. Pourtant, cette équipe et surtout son entraîneur, Zizou, n'est-ce pas, pour nous, a pourtant fixé pour objectif une nouvelle couronne en Liga.
On a tous envie de relever le challenge encore une fois. Alors, il y a beaucoup de choses qui se disent dehors, on va refaire avec les vieux, il n'y a pas de changement, il n'y a pas de trucs, il n'y a pas de tous ces trucs-là. Parce que c'est vrai que le contexte est compliqué et que ce passe pas que sanitaire, économique aussi. Et donc, nous, on a la chance de pouvoir rejouer au foot. Alors, dans des conditions un peu compliquées, mais il va falloir qu'on s'adapte parce que ces changements, il va y en avoir tellement cette saison, il peut se passer de tout. Ça va être dur, ça va être long, mais tellement beau à relever le défi, le challenge, parce qu'en fait on est champion quand même de la Ligue, donc on a envie de défendre notre titre et on va le faire avec beaucoup d'envie en tous les cas.
À la Madrid, à la Madrid.
À la Madrid, une équipe de vieux pour concerner son titre. Est-ce que c'est ça,
c'est
Eric?
C'est quand même dommage de parler de ces joueurs de qualité de cette façon, mais il y a quand même
une certaine dérision de la part de Zidane.
Il y a quand même une réalité qui dit qu'ils sont quand même en bout de course et en fin de cycle.
Pensez à qui?
Je pense à Modric qui a tellement de talent et qui a tellement compté dans la construction du jeu pour le Real qui on sent que ça devient de plus en plus difficile.
Elle est trop.
Ça sera jamais une question de talent, mais ce sera peut-être que ce sera compliqué.
Il a été bon la saison dernière.
Je sais, mais
effectivement l'accumulation des rendez-vous va être compliquée pour ces joueurs trentenaires. Sergio Ramos 34 ans, Marcelo 33.
Mais ce qu'on dit ça presque tous les ans, ils sont encore là puis finalement ou ils gagnent la Ligue des Champions ou alors
pour Modric quand même.
Oui, mais il passe parce que
Ramos, il y a Modric, il y a Kroos, il y a Benzema, tous ceux-là ils ont plus de 30 ans.
Mais c'est-à-dire que l'ossature est en place depuis très longtemps maintenant. Je crois que ça fait 6 ans que ce sont les 8 des 11 Marcelo, c'est 8 des 11 joueurs qui sont les mêmes. Il y a eu le changement de gardien, il y a eu le départ de Cristiano Ronaldo et maintenant Gareth Bale. Sinon tous les autres sont encore là. Donc alors bien sûr, ils ont beaucoup de talent. Mais il y a un moment où ça va craquer. Là, pourquoi ça a fonctionné? Parce que tout simplement, le Real n'a eu que le championnat à jouer sur cette période d'un mois et demi. Ouais. Zizou les avait très bien préparés, comme il sait souvent le faire, avec des préparations athlétiques extrêmement bien étudiées. Et donc, ils ont réussi ce sprint. Mais derrière, et Ligue des Champions, ils ont été éliminés par Manchester City. Donc, en fait, ils ont joué que le championnat. Ils avaient été éliminés de la Coupe d'Espagne aussi. Donc ils ont réussi. Maintenant, quand il va falloir enchaîner tous les rendez-vous, et compte tenu que la saison est concentrée tous les trois jours,
il y a Vinicius, il y a Rodrigo.
C'est là où on les attend.
En transition, cette équipe, je pense.
Là où on attend peut-être quelqu'un dans cette équipe, puisque Gareth Bale est parti, mais sera-t-il le nouveau Gareth Bale? C'est Eden Hazard. C'est quand même un cas, cette histoire, Franck Simon.
Moi, j'y croyais, ou j'ai fait semblant d'y croire en début de saison dernière. Puis là, j'ai renoncé. Non, en revanche, je suis plus intéressé.
Vous y croyez plus?
Non, j'y crois plus. Je suis plus intéressé. Xavier, tu vois, Martin Odegaard, par exemple, qui est de retour. Je me dis, voilà, ça, c'est une pièce intéressante. On l'avait vu la saison dernière avec la Sociedad. Je me dis, ce garçon-là, ben, j'espère qu'on va le voir beaucoup.
Voilà,
beaucoup.
Acheté très cher quand il était très jeune.
Il était prêté un peu partout.
Là, il revient.
Il est de retour.
Il était prêté pour deux saisons à la Real Sociedad et ils ont précipité son retour parce qu'il a fait effectivement une saison remarquable la saison dernière.
Et du coup, ils n'ont pas battu la Real Sociedad.
Oui, effectivement, mais là, il faut laisser les automatismes s'installer puisque c'était son premier match.
Il est intelligent.
Avec le Real, il joue avec Benzema devant lui et puis les deux Brésiliens sur les côtés, Rodrigo et Vinicius. Et Casemiro, il n'y était pas, oui. Donc c'est un dispositif qu'on va sûrement revoir, qui est intéressant, parce que plus offensif que la stratégie qu'avait adoptée Zizou la saison dernière.
Eric, parlez-moi de Eden Hazard, puisque
Eden Hazard, c'est quand même
un mystère.
J'allais dire, par rapport à sa performance, parce que c'est pas une question de qualité, bien sûr qu'il a les qualités, mais c'est quand même une erreur de casting. C'est une erreur de casting pour l'instant.
Mais pourquoi? Il brillait avec Chelsea.
Ouais, mais parce qu'il n'est pas arrivé dans les meilleures conditions. Quand t'as du poids en trop, tu te blesses plus facilement.
Certains analystes disent que bon, retour de vacances, des fois.
Retour de vacances, mais bon, on est de plus en plus sur du travail de précision. Quand tu arrives dans ces conditions-là, ton travail de précision, il est moins précis. t'es fatigué plus facilement. T'es musculairement, tu réagis moins bien. Toutes ces petites choses là qui font que à la fin, si en plus t'es un petit peu fragile comme il a l'air d'être certainement,
parce qu'il
y a eu répétition quoi,
il a eu un an, est-ce que là on peut dire qu'il va être dans le bain?
Là, de toute façon, c'est l'année ou jamais pour lui, parce que là, sinon, c'est fini. C'est fini complet. C'est même pas une Gareth Bale qui va faire ça.
Ils vont le mettre en réserve. Vous rendez compte que la saison dernière, il a marqué un but en 21 matchs de Liga, 21 apparitions, parce qu'il a pas joué beaucoup de matchs en intégralité. Donc il y a un vrai souci, effectivement, de disponibilité athlétique pour Eden Hazard et je dirais même mental. Est-ce qu'il a pris la dimension du Real Madrid?
Ça fait un an qu'on se demande. Voilà. Mais en plus, on est embêté dans le sens où on est étonné de voir que Zidane le voulait tellement et qu'il se soit, autant trompé.
Et c'est là
lui
où...
qui est un joueur, comme vous, Eric, il sent les choses.
Ouais. C'est là enfin, où qu'est-ce qu'il vaut aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il vaut techniquement ou...
Est-ce qu'il manque pas de régularité? Parce qu'on se souvient, par exemple, pendant la Coupe du Monde, avec l'équipe de Belgique.
Il a répondu.
Il arrive quand même dans un climat complètement différent de l'Angleterre. Parce que l'Angleterre, je suis pas sûr qu'il soit carré au niveau de la bouffe et tout ça.
Qu'est-ce que tu suggères?
Pourtant, il y a des repas très intéressants en Espagne aussi. Mais je pense que c'est moins carré qu'au Real où le degré d'exigence est certainement beaucoup plus important qu'à Chelsea. Qu'à Chelsea, qu'en Angleterre, parce que c'est un peu plus
qu'à Londres.
Je pense que Zidane joue aussi un rôle, un défi très important sur le cas Eden Hazard. Vous l'avez rappelé, Annie, Zidane s'est battu pour l'avoir.
Florentino Pérez, c'est sa crédibilité, tu parles.
Il a eu un problème avec Pérez par rapport à sa crédibilité sur. Il y a ce petit problème-là, c'est lui qui a choisi. Donc,
exactement.
Du coup, ça peut.
Bale, il l'a écarté. Là, c'est lui qui fait venir Hazard, donc il va être obligé de le mettre en selle.
Absolument, parce que Zizou est revenu au Real un peu dans un rôle de super manager la saison dernière.
Il gagne le championnat quand même.
Bien sûr, mais il revient avec pas seulement un rôle d'entraîneur, il veut aussi avoir son mot à dire sur le recrutement, ce qui a dans l'histoire du Real est plutôt l'affaire du président en général. Donc Florentino Pérez l'a écouté, il lui a dit ah tu veux pas Eriksen, tu veux pas, bon ok on va prendre Eden Hazard, hop on va prendre Ferland Mendy. La plupart des joueurs
qui ont été, une bonne pioche.
Oui, la plupart des joueurs qui ont été recrutés l'été dernier, à part Hermann Mitao qui avait été booké avant, c'est Zidane qui les a choisis. Et là avec Eden Hazard, eh bien c'est comme le disait Eric Rabessandratana, c'est un échec pour le moment clairement. Donc il va falloir non seulement qu'Eden Hazard réussisse, mais que Zizou trouve les bons mots pour arriver à le remettre en selle. Et ça, ça va peut-être être plus compliqué qu'on peut s'y
attendre.
Franck
Simon, prenez votre bout de le cristal et répondez-nous. Qui pour ravir le titre de champion d'Espagne au Real, si le Real n'y arrive pas? D'abord, est-ce que pour vous, le Real est parti pour faire un doublé?
Je crois beaucoup à la stabilité dans les effectifs d'une saison à l'autre. Justement, là, c'est vrai que c'est très particulier. Il y a aussi cette situation très très lourde, hein, oui, ce contexte lourd
contexte
qui fait que
voilà, bon, en de plus, la pandémie qui fait qu'on il y a moins de transferts et on dépense moins.
Vous avez vu le nombre de garçons qui ont quitté, qui sont rentrés de prêt, qui sont repartis, hein, au Real. Hein. Donc moi je me dis ça serait bien qu'on les voit. Ben non, on les verra pas parce qu'ils sont partis. Ils ont même été vendus pour certains et des grands talents. Donc du coup, je me demande effectivement si avec ce que disait Xavier, c'est-à-dire ce nombre de compétitions à disputer, hein, compétitions nationales, plus
la Ligue des Champions très ramassée.
Est-ce que tu as suffisamment de profondeur d'effectifs? Est-ce que Zidane aura justement la possibilité de mener tout ça de front? T'as envie, quand t'es en Ligue des Champions, t'as envie d'aller au bout, forcément, surtout si t'es le Real. Et en même temps, t'as envie de coller un titre derrière celui-ci qui est si particulier, c'est-à-dire là, vraiment enfoncer le clou.
Qu'est-ce qui est plus important pour le Real? Moi, je pense que c'est quand même le titre de national. Ligue des Champions, c'est un peu compliqué. Moi, je pense que ça va être très très dur de jouer sur plusieurs tableaux. C'est-à-dire
qu'ils seront durs à aller chercher en Liga. Il faut être costaud d'aller les chercher.
Je te dis que est-ce que de certitude en Liga que pour la Ligue des Champions.
Ah, moi, je pense que Barcelone peut surprendre. Hein. Je me souviens la dernière fois qu'on a dit ça, le Real Madrid va tout écraser. Ils avaient tout gagné, c'était en 2017. Ils sont champions. Et il gagne la Ligue des Champions. Et tout le monde dit, le Real va faire le doublé, va remporter le championnat encore une fois. Et qu'est-ce qui a été champion? Barcelone.
Et là.
Ce Barça,
ce Barça en reconstruction sous la coupe d'un Ronald Koeman qui est hyper exigeant, qui a eu les garanties qu'il voulait pour reconstruire l'équipe.
Ou l'Atlético qui, sans doute, aura Suarez dans ses rangs.
Peut-être, faut voir. Mais je pense que ce Barça, il y a un match important dimanche, on va voir. Je pense que ce Barça-là, il risque de surprendre.
Bon, donc le FC Séville, vous y pensez même pas.
Il a une meilleure boule de cristal que moi, Xavier.
Moi, je suis pas trop d'accord.
Malheureusement, j'aime beaucoup Séville et son public, qui d'ailleurs n'y est pas actuellement non plus, mais...
On les verra demain, le FC Séville, qui joueront face au Bayern Munich. Ça sera la super coupe d'Europe. Un beau spectacle en perspective. Et justement, l'UEFA a choisi les meilleurs de la saison.
Lewandowski, the lead at Molineux through Kevin De Bruyne. You're simply the best. Better than all the rest.
Better than it. On aurait plutôt envie de danser que de continuer à parler dans ce studio.
J'ai l'impression. Tina Turner.
Il y a bien longtemps d'ailleurs. Alors le titre de meilleur joueur européen se jouera donc entre ces trois personnages dont vous avez entendu les noms. Tiens, il y a ni Cristiano Ronaldo ni Messi cette année, ça nous change un petit peu.
Ouais. Et Cristiano dixième.
Entre le Belge donc Kevin De Bruyne qui joue à Manchester City, entre le Polonais Robert Lewandowski qui joue au Bayern Munich et l'Allemand Manuel Neuer. Est-ce qu'il y a du suspense? Alors ceux qui nous suivent dans Radio Foot International sont déjà un peu au parfum parce qu'on en a parlé la semaine dernière, mais est-ce que pour vous il y a du suspense? Franck Simon.
J'espère.
Ah ça y est, je crois que j'ai deviné.
Le fait
votre
qu'il
sport chance, ceux qui sont fidèles à Radio Foot International ont dû comprendre.
Moi, Manu Neuer qui est là, je suis content, mais malgré tout ce qu'il a pu accomplir, notamment en Ligue des Champions, où je l'ai trouvé stratosphérique, malgré tous les clean sheets, c'est-à-dire les matchs sans encaisser de but, etc. Son retour au premier plan, parce qu'il revient aussi
d'une grave blessure
et à son âge, ça compte.
Rémi nous avait même prédit qu'il était fini.
Oui. Rémi Gonneau officiel.
Laissons Rémi le vendredi.
Il n'a pas de boule de cristal, je crois, Rémi, ou pas la bonne.
Mais De Bruyne a une belle, je trouve, une jolie tête de vainqueur.
Lewandowski, tu vois, alors si je dois choisir un des deux, je préfère Lewandowski.
Les buts, toi, c'est les buts.
Il court tellement depuis longtemps.
55 buts l'année dernière,
il a quand même une certaine régularité qui n'est pas forcément reconnue parce qu'il y a toujours les deux monstres sacrés au-dessus. Donc là, c'est quand même, le moment où jamais. Si là, il l'a pas là.
Qui vote, c'est des journalistes, c'est comment
des journalistes européens, mais il y a aussi les départements du sport de l'UEFA, je crois, non, qui vote.
Ça m'a l'air un petit peu opaque.
Mais ça serait une reconnaissance pour Robert. Ça serait une reconnaissance pour Robert Lewandowski, le Polonais qui aurait rêvé qu'il y ait un Ballon d'Or cette année, bien sûr.
Sincèrement, il a réussi quand même un double triplé cette saison, Robert Lewandowski. Il gagne les trois titres avec le Bayern de Munich. Alors, c'est pas une première, mais c'est qu'une deuxième dans l'histoire du club bavarois. Il l'avait fait en 2013. Il n'était pas encore au Bayern à l'époque, puisqu'il était à Dortmund. Donc, c'est la première fois pour lui avec le Bayern. Et surtout, il est triple meilleur buteur dans les trois compétitions. Meilleur buteur de la Bundesliga, meilleur buteur de la Coupe d'Allemagne et meilleur buteur de la Ligue des Champions. Et alors, si en Allemagne on sait que le Bayern domine, meilleur buteur de la Ligue des Champions, quand vous avez des clients et on va pas les citer, c'est quand même une sacrée performance. Donc je crois que Lewandowski cette année
mettre 8 buts en général.
Oui, est indiscutable vraiment pour le titre. Alors Manuel Neuer bien sûr aussi le mérite, mais Manuel Neuer, je pense qu'il le méritait plus en 2014 quand l'Allemagne a gagné la Coupe du monde. Là Lewandowski,
les stats de Kevin De Bruyne aussi. C'est bien parce que nous dis le finisseur extraordinaire et tout. Mais parle-nous
Franck, les stats de Kevin De Bruyne.
J'invente rien.
La
saison d'avant, il était aussi meilleur passeur de la première ligue. Il a mis un peu moins d'une quinzaine de buts en première ligue. Mais c'est surtout, moi, ce que j'aime, c'est l'aspect créatif du type, quoi.
Voilà. Mais il est champion d'Angleterre et ils sont sortis par Lyon en demi-finale de la Ligue des Champions.
Là, il s'agit de. En quart de finale, même, je crois. Il s'agit
de. Vous cherchez des poux dans mon crâne lisse.
Il s'agit de désigner le meilleur joueur de l'UEFA. La compétition qui fait référence, c'est quand même la Ligue des Champions.
T'as raison.
Et cette année, je crois que le Bayern l'a gagné de façon magistrale. Tellement. Donc c'est logique de récompenser un joueur du Bayern.
Je te taquinais, Xavier, tu avais raison.
Mais j'adore Kevin De Bruyne. Voilà.
Il n'y a personne sur cette liste de vainqueurs de la Ligue Europa.
Non.
De quoi?
quelle compétition?
C'est organisé par l'UEFA.
Vous pourriez donner la suite du top 10, hein. Messi, Neymar, 4e, 6e, Thomas Müller, 7e, Kylian Mbappé, 8e, Thiago Alcantara, 9e, Kimmich, et 10e, Cristiano Ronaldo. C'est vrai que tu gagnes l'autre compétition européenne, mais t'es pas là, quoi, en fait.
Et voilà.
Oui,
on va le voir, je pense,
encore cette année. Un club comme Séville, dont on loue les performances en Europa League et qui pratique un magnifique football, quand ils arrivent en Ligue des Champions, ils sont un peu au taquet. Ils ont du mal à sortir et arriver en huitième de finale.
Ils auraient mérité quand même qu'un de leurs joueurs soit,
parmi les mecs dans les 10, t'aurais pu en mettre un. Mais n'oublions pas quand même que dans le football, le plus dur, c'est de mettre des buts. Donc Lewandowski, c'est son rôle, mais il n'empêche qu'il le fait très très bien et c'est pour ça que je pense qu'il a plus de chances de gagner.
Est-ce que c'est pas surprenant que dans ce trio, quand même, il n'y ait pas, par exemple, un joueur des Reds, l'équipe de Liverpool qui a dominer ce championnat qu'est le championnat anglais.
Moi, je trouve que dans un sondage organisé par l'UEFA, c'est plus étonnant qu'il n'y ait pas un joueur du PSG qui est quand même allé en finale.
Mais aussi.
Quatrième, le premier.
Voilà. Donc, effectivement, il y aurait eu Neymar ou Mbappé. Peut-être plutôt Neymar sur ce qu'il a montré lors de la Ligue des Champions, lors de la phase finale. Oui. Ça m'aurait pas choqué qu'il soit dans le trio de tête. Bon, il est au pied du podium. Je pense qu'un joueur du PSG l'aurait mérité. Et joueur de Liverpool cette saison, ils se font sortir en huitième de finale par l'Atlético.
Oui.
Après, ils sont champions d'Angleterre, ok, mais en Ligue des Champions, ils n'étaient pas là cette année.
C'est pas le Ballon d'Or, Annie. C'est pas le Ballon d'Or de France Football.
Ce sont les
récompenses de l'UEFA. C'est pas la même chose. Les récompenses saisonnales. Parce que vous avez aussi d'autres titres. Vous prenez je regardais les autres catégories. Entraîneur de la saison, on a trois Allemands. Nagelsmann, Klopp et Flick.
Voilà. Ouais.
Pas Tourelle.
Flick, Nagelsmann, Klopp, ça fait presque un titre de dessin animé, ça.
Bah oui. Il n'y a pas Thomas Tuchel, entraîneur de l'équipe finaliste.
Bah ouais, qui a 4 trophées et finaliste de la Ligue des Champions, quand même.
Nagelsmann, c'est le travail qu'il fait avec Leipzig. Et Klopp, c'est effectivement. Ouais, ouais, ouais. Bon, donc ils sont là, finalement, Liverpool, mais ils sont là dans une autre catégorie.
Une suprématie allemande les Oscars, dans les récompenses.
Et oui, c'est le retour de la suprématie du football allemand, mais on avait vu ça en 2013 et 2014. Hein, c'était les deux grandes années et ça avait abouti d'ailleurs une Coupe du Monde remportée au Brésil par l'équipe d'Allemagne. C'est la fin de ce Radio Foot International déjà messieurs.
Donc, Sean, merci beaucoup.
De nada, moi je peux juste vous en espagnol ou en portugais. Merci à tous de nous avoir suivis et on se donne rendez-vous eh bien, demain pour parler de football. Football.